Je vais peut-être commencer par la première question. On se demande souvent s'il y aura, vous parliez du dépistage du cancer du sein, un âge clé. Est-ce qu'à 50 ans, on fera un examen généralisé, ou à 60, ou à 70, ou à 80, je ne sais pas, pour connaître son statut? Est-ce que ça, c'est des choses qu'on peut envisager pour l'avenir ou...
Oui, complètement. Alors, c'est ce que vous présentait le professeur Dubois tout à l'heure. Là, aujourd'hui, on est en train de développer les outils pour le faire. Après, donc, ce sera de l'ordre du possible, techniquement. Après, toujours dans une politique de dépistage, il faut qu'il y ait un traitement. S'il n'y a pas de sanction, par exemple, le cancer du sein, c'est quoi ? C'est plus il est pris tôt, mieux on a un pronostic. Donc, il y a un intérêt à le dépister à un stade où on ne l'aurait pas dépisté en faisant une palpation manuelle ou un stade plus tardif, comme ça peut se découvrir parfois. Donc, il y a un vrai bénéfice démontré pour le cancer du sein, par exemple, à le prendre tôt. Donc, il y a un bénéfice à faire ce dépistage. Pour la maladie d'Alzheimer, comme vous l'a présenté le professeur Dubois, avec les immunothérapies, on espère que ça va marcher, mais on est encore dans cette période d'incertitude. Donc, tant qu'on n'a pas de traitement prouvé, démontré, etc., et qui montrerait qu'il aurait un bénéfice particulier quand il est administré tôt, on ne fera pas de dépistage. Mais si un traitement montre son efficacité et montre qu'il est efficace à un stade précoce, à ce moment-là, oui, on aura tout intérêt à faire un dépistage. Et peut-être, effectivement, il y aura un âge clé à partir de 50 ans, 60 ans. On fera cette prise de sang, ces petits tests sur tablette.
Peut-être que tout ça va avancer en même temps, des médicaments qui seront d'autant plus efficaces qu'ils ont été démarrés précocement, ce qu'évoquait le professeur Dubois tout à l'heure, et la possibilité de savoir qu'on a un risque de cette maladie. Alors, on a beaucoup de questions là sur où passer ces tests de mémoire. Alors on a parlé des nouveaux tests, peut-être des choses qu'on pourra faire chez soi, mais là, aujourd'hui, les personnes qui s'interrogent, c'est quoi la marche à suivre ?
Alors, la marche à suivre, elle est très simple. On a un réseau national des centres mémoire, des consultations mémoire. Vous trouvez des annuaires sur Internet. C'est, entre guillemets, sectorisé. Il faut prendre rendez-vous à la consultation mémoire la plus proche de chez vous. Vous trouvez des listes à nouveau, soit sur Internet, soit votre médecin généraliste doit connaître la consultation mémoire la plus proche. Et ils commencent par faire un entretien médical, des tests de mémoire, etc. Et ils orientent après, s'il y a besoin, éventuellement vers des centres plus spécialisés, comme chez nous, qu'on appelle les CM2R, pour Centre Mémoire Ressources Recherche, qui sont des sortes de centres mémoire plus spécialisés pour les patients plus atypiques ou plus graves. Et voilà, donc c'est la démarche standard. Donc allez voir votre consultation mémoire, commencez par voir votre médecin généraliste.
Voilà, une des questions, est-ce que le médecin généraliste est formé ? En tout cas, il peut être un bon relais, c'est ce que vous nous dites.
Toujours, c'est indispensable, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent nous donner des troubles de mémoire et qui ne sont pas la maladie d'Alzheimer. Et c'est tout notre travail en tant que médecin. Je ne vais pas vous donner une liste à la Prévert de 150 causes de troubles de mémoire qui ne sont pas l'Alzheimer, mais c'est à peu près l'ordre d'idée. Donc nous, on élimine tout un tas de choses d'abord, avant d'arriver à ça. Et si c'est ça, il faut ensuite faire un bilan plus spécialisé. Donc d'abord, le médecin généraliste, qui est évidemment pas le plus, qui n'aura pas le temps pour faire des choses très spécialisées, mais s'il a un doute ou quoi, il vous enverra vers un centre de consultation mémoire qui fera les choses plus spécialisées.
Alors, une question. Les tests de mémoire de ma sœur sont excellents. Elle a 76 ans et une RM a révélé une atrophie modérée latérale. Est-ce qu'elle a plus de risques d'avoir des maladies d'Alzheimer ? Donc, c'est ce que vous disiez, tous les problèmes. Alors là, en plus, il n'y a pas de problème de test de mémoire, mais dans les maladies de la mémoire, il y a vraiment beaucoup de choses et tout n'est pas à risque de maladie d'Alzheimer, ou bien y a-t-il des prédispositions ou des...
Alors, il y a, pour répondre à cette question, il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter parce que tant que les tests de mémoire sont bons, comme je vous disais, alors certes, moi je vous ai présenté que la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une atrophie dans l'Alzheimer, mais je ne vous ai pas présenté toutes les autres maladies qui donnent une atrophie, qui ne sont pas une maladie d'Alzheimer. Et puis il y a tout simplement aussi, ce qui complexifie l'analyse évidemment, je vous présente les choses de manière un peu simplifiée, mais... Ce qui complexifie l'analyse, c'est qu'il y en a qui naissent avec un petit hippocampe, d'autres avec un grand, et puis vu qu'on fait qu'une IRM dans sa vie et à un âge tardif, on arrive, on fait la photo, il y a un petit hippocampe. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la personne, quand elle avait 8 ans, 10 ans, c'était déjà le cas. Donc vous voyez, il ne faut pas forcément interpréter les choses sorties de leur contexte. C'est toujours ce qu'on fait en tant que médecin. On fait des diagnostics sur des faisceaux d'arguments. On prend la plainte, on prend les tests de mémoire, on prend l'IRM, on prend éventuellement la ponction lombaire, le PET scan, et ensuite on pose éventuellement un diagnostic. Mais c'est pas juste un élément qui nous permet de poser le diagnostic. Donc pas d'inquiétude, tant que les tests de mémoire sont bons, il ne faut pas se fier à des micro-signes comme ça sortis de leur contexte.
Une question d'une participante qui vient de Tours, vous voyez, on a des personnes qui ne viennent pas seulement de Paris aujourd'hui, qui parle du dispositif ICOP de l'OMS, qui est un dispositif de repérage des fragilités chez des personnes âgées, et qui a également des items de fonctions cognitives. Et cette personne nous demande si on peut associer les repérages des fragilités plus globales, comme ce qui se fait à l'initiative du Gérontopole de Toulouse, ICOP, avec des détections précoces de la maladie d'Alzheimer.
Alors, deux choses. Premièrement, comme je vous le disais, c'est effectivement de toute façon quelque chose que vous allez avoir si vous allez consulter pour votre mémoire. Le travail du médecin, c'est d'évaluer effectivement ces comorbidités et voir à quel point elles peuvent influencer sur la mémoire. Deuxième chose, effectivement, ça, l'outil développé par les collègues de Toulouse est intéressant. Alors, c'est un outil effectivement qui a plusieurs dimensions, qui permet de faire à la maison sur la tablette, donc non seulement la mémoire comme on a fait, mais d'autres choses. Alors, il a, comme tout outil, hein, il a ses avantages, ses inconvénients. Là, l'avantage, c'est qu'il fait plein de domaines. Hein. Il y a la mémoire, il y a aussi la nutrition, l'activité physique, etc.
L'équilibre.
Mais évidemment, il est un peu moins bon sur la mémoire que ce qu'on peut faire, nous, avec l'outil santé-cerveau dont vous parlez, professeur Dubois. Voilà, forcément, en trois questions sur la mémoire, on fait moins bon qu'un test de 15 minutes sur une tablette. Ça a de soi. Mais nous, à l'inverse, avec notre test sur la mémoire, forcément, on n'évalue pas l'équilibre, etc. Donc, vous voyez, c'est... Il n'y a jamais un outil parfait, hein, un outil excellent, ça n'existe pas. Il y a toujours des avantages, des inconvénients pour chaque outil. Ça dépend la question qu'on se pose. Pour la question clairement de l'Alzheimer, on va dire que notre outil est meilleur que ICOP, sans fausse modestie, avec un petit biais quand même. Mais, voilà. Mais en revanche, ICOP sera meilleur, par exemple, pour dépister un risque de chute à venir, un risque de dénutrition, etc., etc.
Ça peut être un premier pas pour aller démarrer un test plus précis, en tout cas. Et c'est vrai que c'est intéressant, cet outil ICOP sur les fragilités. Avez-vous évalué le temps d'évolution de la maladie d'Alzheimer et est-ce que ça varie beaucoup d'une personne à l'autre ?
Alors oui, effectivement, c'est une très bonne question. Le temps, il est évalué de manière moyenne à, on va dire, environ 15 ans d'absence de symptômes ou ces lésions, je vous dis, ces neurones qui commencent à perdre leurs branches et ces protéines qui s'agrègent le font lentement. Donc pendant 15 ans à peu près, ça se fait sans symptômes. Et puis les phases des symptômes légers durent à peu près 5-7 ans. Et puis après, les stades un peu plus sévères évoluent en 3-4 ans. Ça, c'est des choses qu'on sait quand on fait des statistiques, qu'on prend 1000 ou 1 million de patients souffrant de maladie d'Alzheimer et on arrive à faire des moyennes. Et puis vous savez, les moyennes, c'est comme ce qu'on vous présente à la télé quand on fait des sondages ou quoi que ce soit. Bah, il y a des fourchettes d'erreurs. Et les fourchettes d'erreurs sont très importantes en l'occurrence. Hein. Il y a des patients qui ont des phases très rapides. En quelques années, malheureusement, la maladie a pris le dessus. Et puis d'autres qui, au contraire, vont avoir des évolutions très très lentes sur 20-30 ans et qui voire même vont stagner à certains stades. Donc, et ça c'est très difficile aujourd'hui pour nous de le prévoir au niveau individuel, on n'est pas très très bon encore, c'est pour ça qu'on fait d'ailleurs tous ces travaux pour mieux prédire l'évolution individuelle, notamment chez les gens qui n'ont pas de symptômes. Donc
ça évolue lentement, ça,
ça évolue lentement
sur des années, nous disait variable. Le professeur Dubois, mais effectivement, ça varie. Est-ce que vous pouvez répondre à cette personne qui souhaiterait faire partie de la cohorte ? J'imagine que c'est des questions qui reviennent souvent. Les personnes qui souhaiteraient intégrer les cohortes pour faire partie des recherches ?
Alors oui, avec plaisir. Donc là, on est dans un temps, on va dire, on est entre deux cohortes. Hein, on en a fini une, qui est la cohorte Insight. Et on va en redémarrer de nouvelles, justement, donc avec ces outils santé-cerveau, les prises de sang, etc. On n'est pas encore au stade où on est prêt à démarrer pour ces nouvelles cohortes. Donc là, si vous appelez, on va vous dire on ne peut pas. Mais oui, dans quelques mois, vous pouvez appeler le centre et vous proposer comme volontaire. Ou faites-le même d'ores et déjà. On note votre nom et puis on vous recontacte si, dès que l'étude et le recrutement commencent.
Une dernière question. Les autres ne portent pas sur la partie dépistage, donc je les mets de côté et je les poserai tout à l'heure avec les bons interlocuteurs. Alors, le point sur, je ne sais pas, je vais lire, mais je ne connais pas, masitinib.
Masitinib, ok. Alors ça, c'est un autre médicament. On en a moins parlé parce que il sort un peu de l'ordinaire. C'est un médicament qui marche plus sur l'inflammation cérébrale, en théorie. On n'est pas encore très bien sûr de son mode de fonctionnement. C'est un médicament qui a été développé pour une maladie qui n'a rien à voir, hein, qui s'appelle la mastocytose, et on s'est rendu compte finalement qu'il aurait peut-être des bénéfices dans d'autres maladies, notamment du cerveau. Alors il a été testé dans la sclérose en plaques, dans la sclérose latérale amyotrophique, et ils l'ont aussi testé dans l'Alzheimer. Il y a une première travaux préliminaires qui montrent que ça pourrait marcher un peu, voilà, l'étude est positive, donc à suivre, à confirmer, ça reste une petite étude avec des amplitudes d'effet assez modestes, à voir à l'avenir, mais pour l'instant c'est encore au stade de développement.
Une dernière question, est-ce que l'implantation de cellules souches pourrait aider à régénérer l'hippocampe, les neurones, etc.
Grande question, hein, celle de la régénérescence du cerveau. Pour l'Alzheimer, honnêtement, c'est pas la piste. Il y a toujours des gens qui travaillent sur tout, hein, dans le monde, surtout quand il s'agit de l'Alzheimer. Donc, vous trouverez toujours un chercheur qui travaille là-dessus. Honnêtement, c'est pas la piste la plus prometteuse, parce que malheureusement, la maladie est assez vite diffuse. Ce qui voudrait dire qu'une fois qu'elle a quitté l'hippocampe, eh bien, il faudrait à nouveau réimplanter au fur et à mesure qu'elle sort de l'hippocampe, donc ça paraît difficilement tenable sur le long terme. C'est en revanche plus prometteur pour d'autres maladies neurodégénératives, notamment type Parkinson, où vous avez pendant très longtemps juste une toute petite partie du cerveau qui s'appelle la substance noire, où les neurones dégénèrent, ce qui génère les symptômes de la maladie de Parkinson. Mais là, en l'occurrence, c'est une maladie qui est pendant très longtemps très localisée à un seul endroit, donc effectivement, les thérapies type cellules souches sont plus prometteuses et plus explorées dans cette maladie que dans l'Alzheimer.
Merci beaucoup pour toutes ces réponses et pour votre exposé. Merci Nicolas Villain.